Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Gabriel Taïeb de l'équipe Podcastine. Avant de laisser la parole à Gabriel, nous tenions à vous avertir, il sera fait ici mention de transphobie, de violence envers les personnes LGBTQIA+, et de suicide. C'est pourquoi nous vous invitons à ne pas poursuivre votre écoute si ces sujets sont trop sensibles pour vous. Si vous êtes concerné par ces problématiques, nous vous rappelons par ailleurs l'existence de numéros d'aide, tels que la ligne d'écoute anonyme de SOS Homophobie ou encore le numéro national de prévention du suicide, le 3114.
Il y a près de 12 ans, la France s'est illustrée en devenant le premier pays au monde à ne plus considérer la transidentité comme une affection psychiatrique. Une étape importante pour la reconnaissance des personnes trans, mais qui est encore bien loin d'accorder à ces dernières les mêmes droits ou la même qualité de soins qu'aux personnes cisgenres, à savoir les personnes en adéquation avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Il faut notamment attendre jusqu'en 2016 pour qu'une loi n'impose plus la stérilisation des personnes qui souhaitent déclarer leur changement de mention de sexe à l'état civil, et en janvier 2022 pour que la classification internationale des maladies transfère l'incongruence de genre du chapitre des affections psychiatriques vers celui de la santé sexuelle. En parallèle, en janvier 2022 également, un rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans a été remis à Olivier Véran, alors ministre des Affaires sociales et de la Santé, à la suite d'une saisine de sa part. Les constats de ce rapport sont sans appel. En plus d'être particulièrement sujette à la précarité matérielle, aux discriminations, aux violences physiques et morales ainsi qu'aux risques suicidaires, les personnes trans sont également confrontées à un accès aux soins semé d'embûches, en particulier dans leurs parcours médicaux de transition, et subissent encore fortement le sceau de la pathologisation de la transidentité et de sa stigmatisation, malgré des évolutions majeures actuellement à l'œuvre. Par ailleurs, le dernier rapport sur les LGBT-phobies de l'association SOS Homophobie note que pour la première fois, la transphobie est devenue le deuxième type de contexte de LGBT-phobie qui lui a été rapporté, et celle-ci est également le seul type de violence pour laquelle l'association a constaté une augmentation de témoignages par rapport à l'année précédente. À Bordeaux, l'association Ancre travaille spécifiquement sur les questions d'accès aux soins pour les personnes trans et permet à celles-ci de se rencontrer et de s'entraider. Pour ce premier épisode de notre sujet en deux parties, nous avons rencontré André, trésorier d'Ancre, afin d'en savoir plus sur les actions de l'association et dresser un bilan de la santé et des parcours de soins des personnes trans en Nouvelle-Aquitaine.
Alors l'association Ancre a été créée il y a maintenant près de 3 ans, et donc on est une association de soutien par et pour les personnes trans, et notre activité est sur plusieurs volets. Tout d'abord un volet de permanence, donc on organise des temps que ce soit de partage d'expérience entre personnes trans, d'accompagnement sur les questions administratives, notamment de changement d'état civil, et des temps de prévention sur les injections d'hormones avec des partenaires professionnels de santé. Et au-delà de ces accompagnements par des permanences, on essaye aussi de faire un travail de réseau sur le territoire bordelais, que ce soit avec des partenaires institutionnels comme la mairie ou des partenaires de santé.
Lors de cet entretien, nous allons longuement parler de transition médicale. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et quels sont les autres types de transition ?
Alors, ce qu'on appelle la transition, quand une personne prend conscience de sa transidentité, elle peut, si elle le souhaite, et c'est vraiment pas systématique, voilà, décider de mettre en place des choses pour que l'identité qu'elle propose au monde corresponde plus à la façon dont elle se sent. Et donc pour ça va être, par exemple, sur différents volets. On va parler de la transition sociale. Par exemple, une personne peut décider de changer de prénom, de changer de pronom. Ça peut être une partie administrative dans cette transition, donc avoir des papiers qui correspondent à son genre. Et la transition médicale, ça va être un ensemble de procédures médicales que les personnes peuvent choisir de suivre pour avoir une apparence qui leur convient et qui leur permet de se présenter au monde comme elles se sentent. Et donc, on va pouvoir parler de parcours hormonaux, que ce soit dit masculinisant ou féminisant, et de différentes chirurgies, principalement des chirurgies du torse pour les personnes transmasculines, des chirurgies de féminisation du visage et des chirurgies qui touchent aux organes génitaux. Et encore une fois, voilà, chaque personne trans vit sa transition d'une manière qui lui est propre, en allant chercher ce dont elle a besoin et les étapes de la transition qui lui correspondent.
Nous l'avons évoqué en introduction de cet épisode, le rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans remis au gouvernement parle d'un accès aux soins semé d'embûches pour les personnes trans. Comment cela se manifeste-t-il sur le terrain? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes trans?
Alors nous, on relève principalement deux types de difficultés. On va avoir des difficultés qui sont liées spécifiquement à la transition médicale. Donc pour les personnes trans qui le souhaitent, de trouver les professionnels de santé qui soient en capacité et qui acceptent de les accompagner dans leur parcours. Et d'un autre côté, les difficultés vraiment dans la santé du quotidien. Parce qu'une personne trans, soit est trans et peut choisir une transition médicale, mais est aussi une personne avec toute sa santé, qu'elle soit physique et mentale, autour. C'est pas parce qu'une personne est trans qu'elle n'a pas de maladie chronique, qu'elle n'a pas de handicap, qu'elle ne tombe pas malade. Et donc, on va avoir beaucoup de difficultés liées au fait que des médecins refusent les suivis de personnes trans sous couvert d'incompétence, en disant « bah non, je ne peux pas traiter votre angine, vous êtes une personne trans sous hormones, je ne sais pas comment votre corps fonctionne ». Donc voilà, c'est aussi des choses qui créent une appréhension pour les personnes trans, puisque le soin est toujours basé sur une relation de confiance entre personnes soignantes et personnes soignées. Et ici, on va avoir plein de petites difficultés qui font qu'on va avoir du mal à spontanément faire confiance. Voilà, donc ça va être sur toute la santé en général. Et spécifiquement sur la transition médicale, voilà, on est aussi sur des phénomènes de manque de personnel soignant formé à ces questions-là, et aussi une vision parfois encore très enfermante des professionnels de santé qui se présentent comme spécialistes des transitions, qui vont considérer les transitions médicales comme un ensemble d'étapes à suivre dans un certain ordre, et très souvent encore soumis à des attestations psychiatriques. Parce qu'il faut savoir que les attestations psychiatriques donc de dysphorie de genre ne sont plus obligatoires pour avoir accès à, que ce soit à un traitement hormonal ou aux chirurgies, et que certains médecins l'exigent encore. Donc ils n'acceptent les suivis que de personnes avec attestation psychiatrique, alors que voilà, la transidentité n'est pas une question de psychiatrie.
Il y a encore un héritage fort de cette considération de la transidentité comme une maladie psychiatrique, voilà. Qui, alors on le rappelle, on l'avait dit en début d'épisode, il faut attendre jusqu'en 2010 pour que la France ne considère plus la transidentité comme une maladie psychiatrique.
Voilà. Et jusqu'en, il me semble, 2021 pour que les attestations psychiatriques ne soient plus exigées pour commencer une transition.
Quelle est la situation en Nouvelle-Aquitaine spécifiquement? Parmi les communautés de personnes trans, il semblerait que le secteur médical local ne jouit pas d'une réputation très favorable.
Voilà ce qu'on rencontre, et ce qui est finalement pas spécifique à la transidentité, mais qui nous marque particulièrement, voilà, c'est un manque de professionnels de santé formés et ouverts à accueillir des personnes trans et à les accompagner. Donc on a une équipe qui se présente comme spécialiste au CHU de Bordeaux, qui est l'équipe transgender, et donc qui propose un parcours qui permet donc une transition médicale entièrement remboursée et prise en charge par la Sécurité sociale. Mais il faut savoir que cette équipe déjà est débordée, a beaucoup plus de demandes que ce que les professionnels peuvent mettre en place. Et encore une fois, c'est un parcours qui reste assez cadré. Il y a encore un psychiatre présent dans l'équipe et le passage par le psychiatre reste obligatoire. Et donc nous, là où ça nous pose beaucoup de soucis, ça me pose vraiment question, c'est de se dire que finalement, quel type de lien de confiance peut être mis en place avec une équipe médicale quand on sait qu'il subsiste des formes de préjugés sur ce qu'est la transidentité et ce qu'est un parcours de transidentité. Et qu'on sait que les personnes qui sont confrontées à un psychiatre peuvent finalement mettre au point le discours qui va être attendu par le corps médical pour avoir accès à ce qu'elles veulent, mais du coup se cachent encore et utilisent encore des faux-semblants dans leur parcours de transition, qui devrait être un parcours qui leur permet justement de s'exprimer, d'être beaucoup plus en phase avec elles-mêmes. Donc nous on a on constate des limites face au parcours de l'hôpital public. Donc après, les personnes peuvent aussi choisir de passer par la médecine de ville. Et là encore, on peine à trouver des personnes qui acceptent les accompagnements.
Comment votre association Ancre répond à ce manque d'accès aux soins? Quelles sont les initiatives mises en place pour contrer un petit peu cette situation?
Nous, on met en place deux types d'actions. Tout d'abord, on cherche à permettre une autonomie des personnes dans leur parcours de transition. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers de formation à l'auto-injection pour que les personnes qui décident d'avoir un suivi hormonal puissent s'injecter elles-mêmes. Et donc voilà, prendre possession de ça et ne pas forcément dépendre de professionnels de santé pour cet acte qui est un acte médical simple mais qui sera très récurrent dans leur vie. Et d'autre part, on essaie de mettre en place un travail de réseau. On travaille avec la mairie sur un groupe de travail pluridisciplinaire, donc avec des associations et des professionnels de santé. Et récemment, on a organisé une table ronde qui réunissait des personnes concernées et des professionnels de santé. Et les échanges qui en ressortent vont nous permettre de constituer un livret à destination des professionnels de santé qu'on pourra donc distribuer pour sensibiliser les personnes à ces sujets-là. Et que ça soit un peu un outil pour créer un réseau. Qu'à partir des professionnels de santé que nous, on connaît et qui suivent déjà des personnes trans, on puisse aller sensibiliser d'autres professionnels de santé, leur fournir certaines informations dont elles peuvent avoir besoin et réussir à étendre ce réseau et pouvoir orienter les personnes vers des professionnels de santé où on sait qu'elles trouveront un accompagnement, l'accompagnement qui leur est nécessaire.
Pour revenir au rapport remis au ministère de la Santé, celui-ci indique dans sa synthèse « L'accompagnement des mineurs apparaît comme un sujet particulièrement délicat », en précisant qu'un nombre croissant de mineurs se questionnent sur leur genre, voire sont en demande de transition, mais les réponses apparaissent insuffisantes et géographiquement mal réparties. Pourquoi il est important de mieux accompagner les mineurs sur ces questions et est-ce que votre association travaille aussi avec ces publics ?
Alors oui, l'association Ancre accompagne des mineurs. On n'a pas d'accompagnement spécifique, mais on a régulièrement des mineurs accompagnés de leurs parents qui viennent nous solliciter, pour que ce soit des conseils, que ça peut être des moments de dialogue, recréer un peu de dialogue avec les parents, ou des moments des conseils sur les procédures administratives, sur les parcours médicaux. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, sur lequel on porte une attention toute particulière, parce qu'on sait bien que les publics mineurs sont des publics particulièrement vulnérables, parce que un mineur trans va être beaucoup plus sujet à du harcèlement scolaire. Sa transition va être dépendante aussi des décisions de ses parents, qui ne sont pas forcément d'accord. Ça va dépendre aussi de l'accueil qu'en est fait dans son établissement scolaire, dans ses autres lieux de vie sociale. En plus de s'ajouter à ce que connaissent les majeurs sur l'aspect médical de la transition. Ce que je trouve aussi important de préciser sur la question des personnes trans mineures, c'est le fait que ce sont des personnes qui sont très souvent médiatisées. Dès qu'il y a une médiatisation des transidentités, on va parler des personnes trans mineures. Mais il faut bien voir que c'est qu'une partie du sujet, et souvent une partie qui est facilement instrumentalisée, et souvent au détriment de ce pourquoi nous on essaye de travailler, c'est-à-dire voilà, à travailler à l'autodétermination des personnes trans et au décloisonnement des parcours médicaux de transition pour que voilà, les personnes trans puissent avoir accès à ce dont elles ont besoin en dehors de la vision issue de la psychiatrisation que peut encore avoir le milieu médical.
Certains groupes affichent aujourd'hui ouvertement et clairement leur hostilité envers les communautés de personnes trans, à la star du mouvement dit des féministes qui s'est révélé en octobre dernier. Selon vous, il s'agit plutôt d'un phénomène isolé qui parvient néanmoins à trouver de nombreux canaux de communication, ou bien d'une tendance plus vaste, et en quoi ce genre de mouvement complique le travail de votre association ?
Alors, je ne sais pas si ça complique vraiment le travail de notre association. Non, on n'a pas interagi avec ces personnes-là. Et moi, je pense que, ben voilà, on voit que les questions de transidentité sont de plus en plus médiatisées. Et donc, forcément, ça suscite des réactions. Et nous, on constate quand même que dans les professionnels de santé, on trouve des professionnels de santé qui s'ouvrent à ces questions-là. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un tiraillement des deux côtés. Oui, c'est plus visibilisé, et j'ai l'impression que chez beaucoup de personnes, ça suscite principalement de l'acceptation et une forte compréhension. Mais comme toujours, dans les luttes, quelles qu'elles soient, quand une lutte prend de l'ampleur, son opposition aussi. Et donc là, ces personnes cherchent à être extrêmement visibles. Mais finalement, nous, on constate plus une ouverture plus grande de nos différents partenaires, y compris institutionnels.
Donc, de manière générale, une tendance plutôt positive de la part de la société dans son ensemble.
Oui, globalement, oui.
Non loin de notre rendez-vous et toujours dans la métropole bordelaise, nous sommes allés à la rencontre d'Alex, une personne trans non-binaire âgée d'une trentaine d'années, qui a bien voulu nous partager son propre parcours médical.
Je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux, je suis une personne trans non-binaire. J'ai pris conscience de ma non-binarité, ou je l'ai enfin admis, en juin 2021. Puis je suis passée par plusieurs phases. Au début, j'ai complètement dégager tout ce qui était féminin pour finalement me réapproprier tout ça les mois d'après. Au moment où j'ai admis ma non-binarité, j'ai commencé un suivi psy. Donc c'est quelque chose dont j'ai parlé de suite à ma psychiatre pour déjà être sûre qu'elle était safe sur ce sujet-là, ce qui a été heureusement le cas. Donc on en a bien parlé ensemble. Tout d'abord, en fait, j'ai pas fait de changement, que ce soit au niveau des pronoms ou au niveau de mon expression de genre, donc comment j'apparais auprès des autres. C'est au fil des mois, j'ai tâtonné sur comment je veux moi exprimer ma non-binarité, que ce soit dans mon identité de genre ou mon expression de genre. Parce qu'en fait, pour moi, c'était déjà un gros bouleversement de me dire non-binaire, parce que ça a été des années de déni finalement. Donc je voulais ne pas déranger, on va dire. J'ai pas changé les pronoms pour, je pense notamment, ne pas déranger les personnes autour de moi, pour pas qu'elles à faire l'effort de me genrer d'une autre façon, tout simplement. Et j'ai gardé exactement la même manière d'exprimer mon genre, qui était plutôt féminine, on va dire. Féminine, évidemment, avec des guillemets. Ensuite, petit à petit, j'ai d'autant plus affirmé ma non-binarité, dans le sens où, à partir du moment où je l'ai compris, j'ai évolué avec ça, un peu comme une deuxième adolescence, en fait. Je me suis trouvée petit à petit.
Vous avez donc initié des démarches pour réaliser une mammectomie, soit une opération chirurgicale correspondant à l'ablation de la glande mammaire et de graisse, et vous avez fait le choix de rechercher des praticiens à Paris et non dans la région bordelaise où vous résidez. Pourquoi ce choix ?
Quand j'ai choisi de faire une mammectomie, j'ai effectivement d'abord cherché autour de moi quelles étaient les possibilités. Malheureusement, à Bordeaux, c'est absolument pas réputé. C'est même réputé transphobe.
Réputé selon quels critères et quels acteurs ?
Je pense que je fonctionne comme beaucoup de personnes trans à recommandations. Donc effectivement, il y a autant des listes de personnes qui sont conseillées que de personnes qui ne le sont pas. Et effectivement, à Bordeaux, c'est pas du tout le cas. Et je voulais pas prendre le risque de subir de la transphobie, tout simplement. Je pense que d'autant plus quand on est une personne trans, c'est compliqué d'aller voir des médecins, quels qu'ils soient. Et il y a beaucoup de chirurgiens et de chirurgiennes à Paris qui sont réputés pour les mammectomies et qui sont surtout réputés pour ne pas être transphobes ou ambiphobes.
Vous, dans votre parcours personnel, vous avez donc enclenché une demande pour une mammectomie. Qu'est-ce qui vous avait été imposé pour accéder à cette demande ?
Du coup, ce qui m'a été imposé, c'est l'accord tripartite, donc chirurgien, psy et endocrinologue. J'ai eu un cas où une amie est allée voir un médecin, un chirurgien, qui effectuait des mammectomies, et j'ai fait passer le message, est-ce que tu peux lui demander si le fait que je ne prenne pas d'hormones, ça soit dérangeant pour lui ou non, parce qu'il y a des chirurgiens qui ne le veulent pas opérer s'il n'y a pas prescription d'hormones. Ce qu'il lui a dit, c'est que lui, ça ne le dérangeait pas de m'opérer, mais je ne serais pas pris en charge. J'ai envisagé la prise d'hormones pour pouvoir accéder, mais déjà, je trouve pas que ça soit une bonne raison de prendre des hormones juste pour pouvoir accéder à une opération. Ensuite, les hormones, donc dans mon cas, ça serait des hormones masculinisantes, ont des conséquences, forcément. Donc, la voix qui change, la pilosité, la redistribution des graisses et autres. Et c'est pas quelque chose que je veux, tout simplement. Moi, pour l'instant, dans ma transition médicale, tout ce que je veux, c'est la mammectomie. Évidemment, il y a des parcours où des personnes prennent des hormones, vont faire des mammectomies, et il n'y a pas de problème à ça. Mais ce que je pense que la sécurité sociale doit comprendre aujourd'hui, c'est que les parcours de transition médicale sont tous différents. Et c'est dommage que la sécurité sociale nous impose un seul moyen, finalement, de vivre sa transition médicale.
Depuis l'enregistrement de notre entretien avec Alex, l'association Trans Santé France a obtenu de l'assurance maladie que celle-ci mette officiellement fin à l'obligation d'un certificat psychiatrique pour la prise en charge des personnes trans. Demain, dans Podcasting, nous continuerons à évoquer les parcours de soins des personnes trans en nous plaçant cette fois-ci du côté des professionnels de santé qui portent également un regard sur les évolutions à l'œuvre aujourd'hui.
Merci Gabriel Taïeb. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.